Les semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole regroupent une série de rencontres d'événements d'action pour promouvoir la diversité, lutter contre les discriminations, favoriser la mixité et le vivre ensemble avec une ouverture et une accessibilité pour tous les publics. Il est néanmoins, dans ces trois semaines, un rendez-vous initié depuis de nombreuses années destiné exclusivement aux travailleurs sociaux du territoire dans le développement de leurs pratiques. La journée de formation des professionnels portait le titre cette année « Les enfants victimes oubliées des violences conjugales ». Elle a eu lieu le 26 mars à l'espace Aretha Franklin de Moreno à Saint-Étienne, où le CIDFF de la Loire, le Centre d'information des droits des femmes et des familles et SOS Violences Conjugales 42, avec le soutien de la métropole et de l'État, ont organisé cette journée de discussion et d'échange. Radio Ondaine, dans le cadre de ses émissions Les Ondes de l'Égalité, vous propose d'entendre la présentation de l'UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger au CHU de Saint-Étienne, un lieu dédié à l'enfant victime de maltraitance. Une présentation par le docteur Claire Gay, pédiatre, Floriane Varinard, psychologue, Hélène Salustro, assistante sociale, et Claudine Fargier, infirmière puéricultrice coordinatrice.
Bonjour à tous. Donc, nous remercions les organisateurs de la journée de nous avoir conviés à présenter cette nouvelle unité. Alors, nous nous occupions déjà de maltraitance, mais ça structure, dirons-nous, le parcours des enfants, en espérant que ça améliore aussi leur accueil et notre travail. Donc, je ne vais pas reprendre la présentation de chacun. Moi, je suis Claire Gay, pédiatre depuis plus de 30 ans à l'Hôpital Nord. Je m'occupais d'une unité de petits nourrissons enfants jusqu'à 6 ans, donc confrontés régulièrement à de telles situations. Et donc, j'ai accepté d'être le pédiatre référent de l'unité. On vous expliquera le fonctionnement. Claudine Fargier, qui est puéricultrice, qui a travaillé dans plusieurs services de l'hôpital, en néonatologie et aussi dans l'unité pédiatricée, et qui est donc coordinatrice. Hélène, qui a un parcours d'assistante sociale aussi, et qui travaille dans plusieurs unités du pôle mère-enfant actuellement, et qui travaille à 20% pour l'UAPED. Et Floriane Varinard, qui a son expérience de psychologue formée au psychotrauma, qui travaille pour 50% à l'Institut médico-légal, à l'IML, à Bellevue, et qui a rejoint l'équipe pour participer à cette belle aventure. Je vais laisser donc démarrer Claudine Fargier, qui va vous expliquer la création de cette unité.
Bonjour à tous. Donc, pour déjà présenter le fonctionnement de notre unité, donc quel intérêt a été amené pour créer cette unité. Donc, elle a été créée au sein du CHU donc et au sein du pôle pédiatrique. Donc cette unité et puis toutes les unités qui du coup sont en train de se développer portant ce nom. Donc, ce sont des lieux uniques et adaptés à l'enfant. Donc, c'est aussi pour ça que c'est au sein des secteurs de pédiatrie. Donc, on accueille les enfants, les mineurs, donc de 0 à 18 ans, victimes de violences ou suspectés de l'être. Donc, on propose différentes choses, une possibilité de soins. Donc, ça, c'est plus dans des choses un peu de l'urgence, avec un travail en partenariat avec le service des urgences pédiatriques. Et du coup, peut en découler des actions de protection. Décidé soit par l'équipe des urgences pédiatriques, soit par notre unité suite à des concertations. Et l'unité aussi a permis de créer au sein de l'hôpital, au sein du CHU, une salle d'audition. Et du coup, ça n'existait pas sur notre hôpital. Il y a des UAPED qui se sont créés autour de salles Mélanie qui existaient déjà au sein des hôpitaux. Donc nous, c'est un autre fonctionnement et du coup, c'est quelque chose qui est encore en cours d'adaptation pour fonctionner autour de cette salle Mélanie. Donc du coup, l'unité fonctionne avec du personnel dédié, donc c'est-à-dire qu'on est présent en équipe sur nos jours d'ouverture pour réfléchir, pour prendre en charge et accompagner les enfants et puis les accompagnants. Voilà, et la prise en charge est globale. Donc notre unité est récente, le projet est arrivé donc au niveau du CHU en novembre 2021. Donc c'est le ministère de la Santé qui porte un petit peu ce projet et aussi en lien avec l'association La Voix de l'Enfant. La spécificité du territoire ligérien, c'est qu'en fait, il y a deux tribunaux. Donc du coup, il y a deux antennes UAPED qui ont été créées. Donc la nôtre au sein du CHU de Saint-Étienne et au sein de l'UMJ, donc l'unité médico-judiciaire du CH de Rouen, une UAPED est aussi en train de se développer. Donc on a eu tout un temps de rédaction du projet pour répondre aux attentes de l'ARS, voilà, qui finance cette structure. Et puis voilà, on a débuté par un premier copil donc qui regroupait tous les partenaires, donc ça a permis aussi de lister un petit peu donc le procureur de la République, le tribunal, l'ARS, les services de police et de gendarmerie, le département et différentes associations aussi qui ont signé le protocole. Et du coup, l'unité a ouvert le 3 octobre 2023. Donc le déploiement de ces unités sur tout le territoire français, donc comme je vous disais, c'est porté par la Voix de l'Enfant. Donc cette association, elle œuvre depuis de nombreuses années autour des enfants victimes de violences en France. Elle a aussi d'autres actions un peu à l'international. Et du coup, les premières unités créées, donc ça porte sur, s'appuyait sur la loi Guigou de 98 sur la prévention et la répression des infractions sexuelles. Donc actuellement, en 2023, là en novembre 2023, la Voix de l'Enfant a recensé 145 unités qui couvrent tous les départements français, d'outre-mer aussi. Et du coup, voilà, selon l'existence de choses déjà présentes dans certains CH ou CHU, voilà, 68 sont conformes à un fonctionnement UAPED, 20 sont en restructuration, donc souvent s'appuyant sur des UMJ. Et du coup, les départements qui en étaient pas dotés ont des projets en cours. Donc, l'intérêt principal et ce qui essaie d'être notre ligne de conduite et voilà, au sein de nos réflexions et de notre organisation, c'est vraiment d'éviter la répétition pour l'enfant. Voilà, et parce qu'à chaque fois que l'enfant va reparler de ce qu'il a vécu, ben ça ravive tout le traumatisme. Et voilà, l'intérêt vraiment. C'est celui-là. Et du coup, voilà, dans un même lieu, il peut y avoir la santé, la justice et la police.
Alors, j'ai pas la présomption de dire que nous sommes au centre du monde de la maltraitance. Hein, mais ce schéma a été publié dans l'instruction ARS, simplement pour illustrer tous les liens que l'UAPED doit avoir et doit développer avec tous les partenaires. Alors effectivement, dans le bas, vous avez la notion de nos médecins traitants, et on rediscutera sur les parcours hein, qu'on peut construire, sur tous les professionnels de santé, notamment les professionnels d'éducation nationale. Bien sûr, le médecin référent protection de l'enfance et la CRIP. Et on a eu des rencontres avec la CRIP pour essayer de définir quelles seraient nos modalités de fonctionnement dans les deux sens. Et puis, évidemment, avec la justice et forces de sécurité. Et tout ça était donc à mettre sur le papier et à développer. Et c'est encore, je pense, en cours de construction. On y reviendra quand je vous présenterai les circuits des enfants. C'est l'équipe actuelle dont on a déjà parlé. Et donc le fonctionnement, je vais laisser à Claudine, puisque officiellement je n'ai qu'un temps très restreint de coordination et ce n'est pas moi qui suis la plus présente sur l'unité.
Oui, donc pour reparler de l'équipe, on travaille en collaboration étroite et du coup présente avec l'équipe de médecine légale. Donc ils sont quatre médecins légistes à intervenir à tour de rôle. Et puis on peut faire appel à eux aussi avec leur roulement d'astreinte. Donc l'unité actuellement, au vu des financements, au vu de nos temps de travail personnel, c'est-à-dire qu'on est effectivement avec Floriane, psychologue à 50%, on peut pas être ouvert tout le temps. Donc l'unité est ouverte les mardis, les vendredis toute la journée et un mercredi sur deux. Donc le parcours de l'enfant, voilà, on va vous présenter les schémas, mais notre rôle et mon rôle en tout cas en premier est d'accueillir l'enfant, de le mettre en confiance Et puis ensuite, selon le cadre dans lequel il arrive à l'unité, il vient s'entretenir avec le médecin légiste et la psychologue. Donc c'est une activité qui existait déjà sur le territoire au sein de la médecine légale. Donc c'est pour les mineurs une activité qui a été rapatriée dans les locaux de l'UAPED. Donc ce parcours-là s'appuie effectivement sur une audition qui a été faite en amont de la venue à l'UAPED. En tous les cas, c'est la pratique actuelle. Et on a une autre activité qui est plus sur contact direct par l'unité. Et en fonction de la demande, on essaye de s'adapter pour répondre au plus près aux besoins de la situation. Donc parfois, c'est une évaluation psychologique, plus ou moins un examen pédiatrique ou médico-légal. Et il y a la possibilité aussi de faire un entretien avec l'assistante sociale. Et là, c'est souvent la prise en charge des accompagnants et de la famille. Donc je vous ai aussi mis pour vous représenter un petit peu les locaux. Donc là aussi, vu le projet, la constitution de projet, on est dans des locaux un peu temporaires, avec un projet plus ambitieux sur un schéma directeur pour 2028 au niveau du CHU, avec tout le pôle pédiatrie. Mais actuellement, on est situé dans le pôle mère-enfant au niveau du bâtiment E, au niveau -1, donc vers la radiologie pédiatrique. Et du coup, donc la photo principale où on voit une salle d'attente, donc c'est un lieu d'accueil, un lieu où les familles patienteront pendant que l'enfant est pris en charge par les médecins dans le bureau d'examen. Et puis du coup, ça peut être aussi le lieu, un lieu de jeu, pour mettre l'enfant en confiance, pour qu'il s'adapte à l'environnement. Et parfois, on a accueilli des fratries, c'est un temps qui va durer un peu plus longtemps, le temps que tous les enfants soient vus. Et du coup, il y a la possibilité d'un repas ou d'un goûter pour aussi occuper l'enfant et respecter son rythme et ses besoins. Ensuite, je vous présente, on a aménagé une salle d'audition. Donc, c'est une pièce équipée avec l'aide et le soutien de la voix de l'enfant. Donc, vu le déploiement de toutes les unités, la voix de l'enfant a un partenariat avec une entreprise spécialisée dans l'équipement de ce matériel. Donc, on peut voir tout le caisson d'enregistrement. Donc, c'est un matériel assez simple d'utilisation et du coup réservé aux forces de police et gendarmerie qui viendraient faire l'audition dans nos locaux. Et du coup, on voit la pièce, donc qui est dans des coloris assez apaisants, où il y a une caméra et des micros implantés dans le mur. Donc voilà, c'est un matériel vraiment à destination des forces de police.
Dans l'instruction ARS, il fallait qu'on formalise des parcours pédiatriques. Donc le premier parcours qui nous a semblé logique, parce qu'il existait déjà, c'est le parcours via les urgences pédiatriques, qui est un lieu d'accueil des enfants amenés par leur famille, envoyés par un médecin ou même amenés par les forces de l'ordre. Et donc il y a une première évaluation, un repérage éventuellement d'une maltraitance, parfois quelques examens complémentaires qui paraissent urgents, à la suite de quoi on a quand même développé le lien avec le médecin légiste d'astreinte, puisqu'il y a une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour déjà discuter de la situation, juger de son urgence, de sa pertinence, et avancer un peu rapidement. Donc soit à partir de là, soit il y a une inquiétude simple qui peut déboucher sur une information préoccupante. Les médecins des urgences savent rédiger des informations préoccupantes, sachant que les familles doivent en être informées. Ce qui n'empêche pas que l'enfant puisse être éventuellement hospitalisé pour des soins ou d'autres examens. Et soit il y a une réelle suspicion de maltraitance, une maltraitance quand même avérée à première vue, et il y a un signalement assez rapide un examen par le médecin légiste pour ne pas trop le décaler, avec là aussi une hospitalisation possible. Et si le signalement n'était pas fait directement aux urgences. Il peut être fait après dans un service d'hospitalisation pédiatrique à la suite des examens complémentaires. Et en principe, le rôle de l'UAPED dans ces situations est à la fois un rôle de recueil un peu de toutes ces informations, informations préoccupantes, signalements, et aussi d'organiser la prise en charge d'aval de l'enfant, puisqu'on a cette charge-là d'organiser, pas forcément de la réaliser, mais d'organiser ou de se soucier en tout cas de la prise en charge d'aval. Le deuxième grand type de parcours, sont des parcours programmés avec rendez-vous. Alors, la partie de droite, en fait, existait déjà. C'est selon le fonctionnement des UMJ, unités médico-judiciaires, à l'Institut médico-légal. C'est-à-dire qu'un rendez-vous est pris sur réquisition. Alors, avant ou après audition, alors la plupart du temps après audition de l'enfant, quelques auditions maintenant qui sont programmées, et donc l'enfant vient pour un examen médico-légal, et puis il rencontre la psychologue et parfois une évaluation sociale. Et le médecin légiste fait son rapport, et l'UAPED est là aussi chargé d'évaluer les besoins et d'organiser l'aval de la prise en charge de l'enfant, avec parfois même des suivis temporaires par la psychologue de l'UAPED, comme elle le faisait à l'Institut médico-légal. Quand c'est sur réquisition, il n'y a pas de souci, c'est un circuit déjà qui existait. Le circuit qui est très spécifique, c'est ce qui différencie d'ailleurs une UAPED d'une UMJ, c'est que l'UAPED peut être saisi de demandes venant de la part de familles inquiètes, de médecins ou de professionnels de l'enfance. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas examiner un enfant sans l'accord de sa famille. On a été parfois saisi de situations par un éducateur. Il n'y a aucun problème pour l'enfant, mais il faut que la famille soit d'accord pour l'amener. Donc là, par contre, avec l'accord d'une famille, on peut voir des enfants hors réquisition et évaluer la situation. Soit l'évaluation est rassurante. Bon, pas de souci, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner l'enfant et trouver quelques solutions. Soit la situation est inquiétante, à la suite de quoi l'équipe, effectivement, après discussion, peut tout à fait décider de faire soit une information préoccupante, soit un signalement. L'avantage, c'est que l'examen fait par le médecin sera pris en compte pour la réquisition. L'enfant ne sera pas réexaminé. Donc voilà, et ensuite effectivement on doit s'organiser aussi pour la prise en charge d'aval des enfants. Donc voilà, c'est ce qui est un peu la nouveauté, hein. Et c'est vrai que notre fonctionnement actuellement à mi-temps commence à être un petit peu limité, hein, pour répondre maintenant à faire certaines demandes, hein. Mais c'est le côté extrêmement intéressant. Pour le côté, effectivement, sur réquisition, depuis l'ouverture, on a fait 5-6 auditions sur place à l'UAPED. Alors, c'est vrai qu'il existe des salles Mélanie, la salle Mélanie de la gendarmerie à Andrézieux. Une salle Mélanie, on a appris au moment quasiment de la création de l'UAPED qu'il y avait une salle Mélanie maintenant à l'hôtel de police à Brigade des mineurs, cours Fauriel. Donc il est hors de question qu'on voit tous les enfants avec audition, parce que ça prend aussi du temps. Mais on a vu ça en quelques situations qu'il était extrêmement intéressant de pouvoir coupler les choses. Parce qu'au moment de l'audition, si elle se fait sur place, le médecin légiste et la psychologue peuvent assister à côté des machines de l'autre côté de la salle à l'audition et à connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et éviter de reposer certaines questions à l'enfant, sauf à compléter quelques détails. Donc ça aussi, c'est un peu l'esprit UAPED, ne pas faire répéter l'enfant. Donc ça va se développer un petit à petit. Et donc pour la journée d'aujourd'hui, on a choisi d'illustrer par une situation particulière récente.
Alors oui, pour relier un peu avec ce qui nous réunit aujourd'hui, on a essayé peut-être de faire des ponts et de voir comment nous on prenait en compte ces enfants. Alors, je rejoins un peu l'intervention d'avant. Pour moi, c'était pas des enfants oubliés, puisque notamment sur l'UMJ, toutes les femmes victimes de violences, alors il faut qu'elles passent par le dépôt de plainte et la réquisition bien sûr, mais en fait c'est une proposition en systématique en tout cas qui se fait à Saint-Étienne sur la médecine légale, l'UMJ, toutes les femmes qui sont vues par un médecin légiste, il y a une proposition systématique pour les enfants victimes ou témoins. Donc même s'ils ne sont pas violentés eux-mêmes, mais qu'ils sont témoins de violences entre les parents, même violences verbales, on va proposer, en général, c'est ce qu'on appelle un dispositif de prévention. On les voit sur 3 séances pour faire le point sur la situation et déjà veiller qu'ils aient quand même pas des violences eux-mêmes et puis replacer... souvent, c'est on s'appuie sur des bouquins, des choses comme ça. On essaye de retracer le normal, le pas normal. Parce que, bon, les enfants victimes de violences, souvent, ils ont des curseurs et des radars sur la violence qui sont pas tout à fait les mêmes que les autres et une tolérance à la violence qui est différente. Donc, c'est vrai qu'on essaye beaucoup de travailler là-dessus. Et puis après, quand il y a besoin de plus de soins, on oriente, bien sûr, hein. Voilà, pour préciser aussi, peut-être compléter ce que tu disais, Claire, tous les enfants qui ont une réquisition, on va les prendre en charge sur l'UMJ, on est trois collègues. Après, pour les enfants où il n'y a pas de réquisition, là on travaille avec l'extérieur, et puis là on est un peu confronté aux mêmes difficultés que tout le monde sur les prises en charge et tout ça, mais bon, on va tout le temps essayer de trouver un parcours facilitant. Voilà. Donc après, on a choisi donc de vous parler d'une situation qui est très récente pour nous. Je crois que ça fait 15 jours, hein, c'est tout récent. Donc voilà, pour expliquer, illustrer peut-être un petit peu concrètement comment ça pouvait se passer par rapport aux enfants issus, enfin qui peuvent être témoins de violences parentales. Donc là, la situation, donc c'est un petit qui a été reçu chez nous, donc qui est âgé de 4 ans et demi, et pour qui c'est l'intervention du médecin légiste qui a permis de mettre en place une rencontre à l'UAPED, puisque au départ c'était donc une réquisition pour la maman sur des violences conjugales importantes, et c'était une situation de flagrance. Donc du coup la légiste a rencontré cette maman et dans l'échange a pu échanger avec la maman et voir qu'il y avait un enfant, voir que peut-être probablement il était témoin, et donc elle a suscité, donc là elle a fait une demande auprès du parquet pour obtenir une réquisition pour voir cet enfant, que donc nous avons accueilli dans un deuxième temps le lendemain, hein, je crois que ça a été assez rapide, donc sur l'UAPED. Donc là il a pu bénéficier donc d'un accueil, donc il était venu avec sa maman, puis c'est les tatons, je crois, c'est ça. Donc voilà, il a eu donc un temps d'accueil, lui et sa maman, fait par Claudine. Et puis après, il y a eu donc une audition faite par la police, où moi-même et la médecin, nous avons assisté donc dans la pièce à côté à l'audition, qui était très très, qui était très intéressante, parce que l'enfant était bien dans le jeu. C'était un enfant très joueur. Bon, mais il était petit, hein, 4 ans et demi, et du coup il avait une authenticité assez remarquable, et il a pu très spontanément, dans le jeu et dans l'échange, évoquer plein de situations dans lesquelles il était témoin. Et puis pas que, on a pu aussi développer sur certains aspects, et voir qu'il avait pu aussi recevoir. Bon, c'est sûr que c'était peut-être dans un autre contexte, on aurait pu un peu banaliser ces violences-là, mais là du coup ça a pu être mis en évidence. Et puis il a surtout pu apporter de nombreux témoignages autour de sa maman, rapporter beaucoup de scènes qui sont venues en complément, sachant que sa maman était beaucoup plus réticente à l'échange et avait tendance bien sûr à un petit peu banaliser ce qu'elle rencontrait au quotidien. Et l'enfant, lui, a pu mettre en évidence des scènes très spontanément. Il pouvait remimer, redire les paroles, dire comment lui il intervenait quand papa il s'énervait sur maman. Donc c'était ça a permis quand même de mettre en en évidence pas mal de choses. Et donc après, on a fait un examen médical avec une évaluation psychologique qui a été quand même assez restreint parce que bah, l'audition avait été riche et du coup on a pu ne pas trop embêter finalement l'enfant. Moi au niveau de l'observation psychologique, j'avais beaucoup d'éléments, donc bon, on a pu compléter sur 2-3 choses, des choses autour de l'école pour avoir des éléments sur l'apprentissage, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça a été un examen plutôt rapide par rapport à ceux qu'on fait d'habitude parce qu'on avait pu avoir énormément d'éléments au cours de l'audition. L'examen médical, bon, a été aussi assez en plus c'était un enfant qui était qui était bien présent et qui répondait bien, donc du coup l'évaluation elle était assez courte mais finalement plus riche que d'autres parce qu'il y avait cette observation j'allais dire plus large dans un autre contexte. C'est vrai qu'on sait aussi que des fois la présence médicale, les enfants ils répondent aux médecins. avec la police c'est un autre message, enfin c'était ça donne une observation différente. Et donc on a pu à l'issue proposer donc un suivi pour la maman et bien sûr pour l'enfant en tant qu'enfant victime. Donc là il va rentrer dans le dispositif donc de prise en charge préventif du psychotrauma, notamment pour, donc c'est un enfant qui pouvait dire par exemple que papa il se fâchait parce que maman énervait beaucoup maman, maman énervait beaucoup papa ou que maman faisait des bêtises. C'est souvent des discours qu'on retrouve chez les petits. Maman elle est punie parce qu'elle fait des bêtises, des choses comme ça. Donc il va rentrer dans la prise en charge donc préventive avec tout le dispositif sur l'UMJ, sur au départ 3 séances. Et puis sans doute, vu qu'il rentre quand même dans les 2 contextes, il va aussi bénéficier d'un accompagnement au sens large après, en fonction de comment la maman peut investir, parce qu'elle habite pas la même ville. On prend en compte aussi ça, hein, parce qu'on sait que pour ce type de victimes, les mamans notamment, les déplacements, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que c'est une notion qu'on prend en compte. Nous, on est sur Bellevue et comme on prend au niveau des réquisitions toute la Loire, des fois même Haute-Loire et une partie de l'Ardèche, c'est quand même des notions qu'on a hein, pour des mamans qui se retrouvent seules, isolées, des fois sans moyen de locomotion. Bien sûr, c'est pas toujours évident de pouvoir maintenir les prises en charge avec une distance géographique.
Donc dans cette situation, j'ai été amenée à rencontrer la maman, du coup, qui était très inquiète, pour le coup, de laisser son enfant partir avec le médecin, la psychologue. Donc c'est tout un accueil aussi des parents dans certaines situations, voilà, pouvoir rassurer, enfin voilà, expliquer ce qui va se passer, même si ça a été fait aussi précédemment, mais voilà, reprendre les choses avec les parents. Et puis là, ça a été par exemple dans cette situation, cette maman qui était séparée de courte date, s'assurer qu'elle était en lien avec les services sociaux du département, la PMI, pouvoir détecter quelques problématiques, notamment financières, et pouvoir l'orienter correctement auprès des partenaires compétents, du coup, qu'elle soit accompagnée.
L'entretien avec du coup l'assistante sociale permet aussi de prendre en compte cette maman pendant que son enfant il est avec soit les policiers soit avec le médecin, et du coup ça permet aussi de faciliter un petit peu le temps pour cette maman.
Et donc on a démarré pour compléter le problème des violences conjugales, il y a les situations d'homicide, féminicide. Et donc, il y a eu aussi une nouvelle instruction ARS, qui n'est pas tout à fait récente, 2022 quand même, ça va faire 2 ans, qui avait été adressée initialement aux directions des CHU, entre hôpitaux. Et donc, on a commencé à travailler ce protocole, puisque même si je trouve que pour une fois, c'est un protocole plutôt facile à lire, à comprendre, assez pratique, il faut le décliner localement. Savoir qui fait quoi, à quel moment, puisqu'il faut prévenir un médecin, il faut organiser l'hospitalisation des enfants, il faut les évaluer, les accompagner et prévoir. Et donc l'idée, c'est de formaliser effectivement l'accueil maintenant obligatoire hein, de ces enfants dans de bonnes conditions, de pouvoir les auditionner si besoin, de pouvoir les soigner si besoin, de pouvoir les évaluer psychologiquement et ensuite de mettre en place aussi leur prise en charge d'aval. Et tout ça en lien, donc on est en train, j'ai pas de joli schéma à vous proposer parce qu'on y travaille, il n'est pas finalisé. Et donc tout ça en lien avec l'ASE évidemment. Donc il y a plusieurs niveaux, le niveau du procureur de la justice qui déclenche les choses, le niveau hospitalier, et puis l'UAPED et l'ASE qui chapeautent après, qui sont en lien pour la meilleure orientation possible et prise en charge de ces enfants. Donc la prochaine réunion avec l'ARS est prévue en juin, et donc je pense que la signature du protocole sera assez rapide ensuite, parce que là aussi il faut des signataires multiples, que ce soit l'hôpital, le procureur, le SAMU, voilà, la pédiatrie, tous les intervenants de ces situations heureusement pas trop fréquentes, mais bon, qu'il faut absolument prendre en charge de façon très spécifique, en tout cas. Voilà où nous en sommes depuis donc octobre, hein, donc depuis peu. Nous avons à progresser. Si nous travaillons en temps partiel, c'est pour bien vous faire comprendre, c'est qu'il y a un budget spécifique à ARS pour le fonctionnement de ces UAPED et que pour l'instant, il ne permettait de financer que ces temps de poste, sachant que les médecins ne sont pas rémunérés sur ces postes-là. Les médecins légistes sont rémunérés par la justice sur toutes les réquisitions. Quid de leur rémunération sur des examens hors réquisition? Et mon temps de pédiatre de 0-1, voilà, de coordination, il est là aussi pour le moment payé, financé par l'hôpital, mais bah, sachant que les locaux ont été financés quand même, tous les travaux des locaux ont été aussi financés par le CHU. Donc il y a quand même une entente et une volonté en tout cas que les choses progressent.